Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonjour à tous, vous allez bien? J'espère que vous êtes toujours en bonne santé et que vous êtes toujours fidèles à notre émission quotidienne de la Voix de l'Indonésie en langue française. Avec moi ce soir, Yubi Suryanto, et on va être ensemble pendant une heure aujourd'hui, samedi 18 juin 2016. Il est 3h du matin du temps à Jakarta maintenant. Chers auditeurs et auditrices, ce soir le programme commencera par le journaux, suivi le revue de presse, aujourd'hui dans l'histoire, la mise au point. Et puis on vous présente le rappel de l'actualité. Et puis on vous propose la rubrique hebdomadaire qui sera cette semaine sur le magazine culturel et suivi par l'Indonésie en couleur. Nous finirons notre mission la rubrique distraction, c'est-à-dire la couleur de la musique indonésienne. Bon, chers auditeurs, auditrices, voici le journaux aujourd'hui.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers auditeurs, auditrices du monde entier. Voici le journal aujourd'hui. Un titre, semaine Indonésie cible de la deuxième expansion à l'étranger en 2016. L'Indonésie l'hôte de l'exposition cosmétique internationale. Voici le bulletin complet. PT Semaine Indonésie fixe des objectifs que la deuxième expansion à l'étranger finit en 2016, de sorte que le processus de développement de la production est réalisé et ne pas seulement compte sur le marché intérieur. C'est ce qu'a affirmé le président directeur de PT Semen Indonesia, Rizkan Chandra, à Surabaya vendredi. Selon lui, le développement du réseau à l'étranger pour la première a été effectué à Tang Long, au Vietnam, dont le développement du marché est considéré comme satisfaisant, si bien qu'il faut nécessiter d'autres pays. Mais Rizkan Chandra a refusé de préciser le pays suivant qui devient l'objectif du développement de PT Semen Indonesia International. L'Indonésie a une grande opportunité dans l'industrie de la beauté, basée sur ce fait où BM Indonesia présente Beauty Indonesia, à savoir la première exposition du commerce est la seule en Indonésie qui se consacre aux participants internationaux. Le directeur général de PT-UBM Indonesia, Ivan Ferrari, a dit que cette exposition couvre tous les secteurs de la beauté tels que les matériaux, l'emballage et les machines, la fabrication, les produits cosmétiques, des articles de toilette et des soins personnels, la santé et spa, la santé naturelle, salon de beauté, coiffure professionnelle, des clous et des accessoires. Le fonctionnaire du ministère de la République d'Indonésie, Afrida Sustoniar, souhaite que l'exposition Beauty Indonesia 2017 puisse être un moyen de promotion d'échanges d'informations de l'industrie de la cosmétique nationale et internationale, y compris la technologie de production, la recherche, le marché et les dernières tendances cosmétiques, ainsi que d'encourager l'investissement de l'industrie des matières premières cosmétiques dans le pays. Nous espérons que Beauty Indonesia 2017 peut créer l'harmonisation entre les fabricants locaux et internationaux pour renforcer l'industrie de la beauté en Indonésie, a déclaré Ivan Ferrari lors d'une conférence de presse à Jakarta récemment. La Commission des transports de l'Union européenne a supprimé l'interdiction de vol des trois compagnies aériennes de l'Indonésie telles que CityLink, Batik Air et Lion Air, après avoir sorti de la liste de la sécurité aérienne de l'Union européenne, les avions des trois compagnies aériennes pourraient traverser la zone de l'aviation civile et développer leurs activités dans l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé l'ambassade de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, dans une conférence de presse au bureau de la délégation de l'Union européenne le vendredi. L'ambassadeur Guérin a expliqué que la liste de la sécurité aérienne de l'Union européenne n'aidait pas seulement la question des normes de sécurité élevées, mais aussi encourager les pays concernés à accroître leur niveau de sécurité de sorte que l'interdiction peut être annulée. En plus de ces trois compagnies aériennes, les quatre autres compagnies aériennes indonésiennes ont adopté les normes de sécurité de l'Union européenne, à savoir Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Mandala Airlines et Premier Airlines. Néanmoins, sur la base des données de la délégation de l'Union européenne, il y avait 52 compagnies aériennes indonésiennes qui sont incluses dans la liste de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Le chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Franky Sibarani, a mené de la réunion avec 10 entreprises à Shanghai, en Chine, ce vendredi. Ces 10 entreprises qui ont été rencontrées se composent de plusieurs secteurs, à savoir les produits pharmaceutiques, la centrale électrique, l'industrie des édulcorants artificiels, de l'automobile et de la banque. Franky Sibarani, dans un communiqué de presse vendredi à Jakarta, a dit que l'une de l'entreprise qui était prévue pour rencontrer était l'entreprise de la centrale électrique de la Chine, qui a déjà une entreprise conjointe avec PT Pembangkit Jawa Bali pour construire de la centrale, ainsi qu'une entreprise conjointe avec l'entreprise privée nationale. Franky Sibarani a expliqué la réunion avec pour de transmettre les derniers développements sur le règlement et le potentiel d'investissement en Indonésie. L'agent indonésien de lutte contre le terrorisme, BNPT, prévoit d'installer des agents de liaison dans les pays qui auraient lié à des activités radicales et des terroristes en Indonésie. Il a été déclaré par le chef de l'agence, Tito Karnavian, à une séance de travail avec la commission 3 du Parlement jeudi à Jakarta. Selon Tito Karnavian, les agents de liaison sont nécessaires d'améliorer la coordination pour empêcher l'entrée des idéologies radicales et violentes à l'Indonésie. Une autre chose importante est d'installer 3 ans de liaison en Turquie, au Pakistan et aux Philippines. Parce que la Turquie est le point d'entrée en Syrie. Au Pakistan, il y a encore les réseaux terroristes qui existent en Afghanistan, Pakistan, liés avec l'Indonésie. Les Philippines sont liées au cas de prise d'otages d'Abu Sayyaf. Le chef de BNPT, Tito Karnavian, a expliqué que l'Indonésie a intensifié la coopération avec d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme et la propagation des activités radicales et violentes. La coopération comprend les chances d'information et le renforcement des capacités des forces de l'ordre. La dernière. Le ministre indonésien des Affaires religieuses, Lukman Hakim Saifuddin, soutient l'accord de calendrier islamique mondial et attendre la réalisation des résultats du Congrès international de l'unification du calendrier Hijri qui a eu lieu à Istanbul en Turquie du 28 au 30 mai 2016. Nous sommes sérieux de détermination au début du mois lunaire, mais il doit être soutenu par les musulmans, le chef religieux et toutes les organisations islamiques, a déclaré le ministre des Affaires religieuses au séminaire national du calendrier islamique mondial à l'université de Muhammadiyah, professeur Dr. Hamka, le vendredi à Jakarta. Avec le calendrier islamique mondial, on souhaite qu'il n'y ait plus une différence dans la détermination du début de Ramadan, Sawal et le jour avant de séjourner dans Zulhijja. Pour le gouvernement, a-t-il ajouté, ce calendrier va également affecter beaucoup de choses, entre autres la détermination de la date du congé ensemble. Pendant les dernières années, le gouvernement et des organisations islamiques telles que Nahdlatul Ulama et Muhammadiyah ont tenu un dialogue visant à unir la détermination de la date le calendrier Hijr. Ces amis, c'était notre journal aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. De divers événements importants dans cette semaine sont résumés dans la revue de presse. Premièrement, l'éditorial du journal Compass a écrit sur l'étape anticipative du gouvernement. Le gouvernement doit prendre des mesures préventives après un étudiant indonésien en Turquie est arrêté pour la supposition de participer dans le terrorisme. La police de Gaziantep a capturé HLS, un étudiant de l'Indonésie, pour des liens présumés avec le Hizmet, qui, par le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré un groupe terroriste. L'arrestation de HLS renforce certains résultats de recherche de l'Institut indonésien des sciences LIPI dans 5 grands campus, l'Université Gadjah Mada, l'Université de l'Indonésie, l'Université Erlangga, l'Institut agricole de Bogor et l'Université Diponegoro en 2011. Selon LIPI, la jeunesse indonésienne est de plus en plus radicalisée et de plus en plus intolérante, tandis que les universités sont contrôlées par des militants. Selon Anna Saidi, chercheur de LIPI, le radicalisme a émergé en partie parce que le processus d'islamisation chez les jeunes ont tendance à n'être pas ouvert aux opinions des autres musulmans. Selon ce quotidien, pour éviter la compréhension radicale, ce fardeau ne peut pas être complètement remis au gouvernement. Les familles et les écoles, les deux institutions qui affectent le plus la croissance et le développement des enfants, devenant le premier antidote à réduire l'apparence d'un tel radicalisme. Cependant, le quotidien Média Indonésia a écrit dans son éditorial « Élire le chef de la police d'Indonésie sans commotion ». Le mystère sur le remplacement du chef de la police nationale, le général Badruddin Haiti, est rempli après que le président Joko Widodo a proposé le nom du commissaire général Tito Karnavian au Parlement mercredi le 15 juin. On espère que la police nationale et la police bientôt obtiennent un nouveau commandant sans raquette dépensée de l'énergie. Dans la lettre, le président a nommé commissaire général Tito comme seul candidat à traiter à la Chambre. Tito fera l'objet d'essais, d'ajustements et le bon pour approbation par le conseil d'administration en tant que nouveau chef de la police. La désignation de Tito peut soulever quelques questions. Tito est relativement jeune, 51. En fait, il était seulement 3 mois dans le bureau du chef de l'Agence nationale de lutte contre le terrorisme, après Pluto, chef de la police Metro Jaya, pendant un an. Le rang de commissaire général qu'il porte n'est que 2 mois. L'avis est apparu que Tito est le chef de la police à l'avenir, pas au présent. Tito est considéré prématuré. Il y a aussi alarmant l'apparition d'une résistance à la force de police si le junior est élu chef de la police. Cependant, il n'y a rien de plus à savoir sur qui est digne et mérite d'être chef de la police, à moins que le président. Le système constitutionnel en Indonésie a également souligné que l'exécutif a le droit de nommer le chef de la police, même si par la loi, la nomination doit également l'approbation du Parlement. Le commissaire général Tito eut à peine impeccable. Chaque bureau effectué, il exerce en douceur. Il n'est pas également un flic partisan, neutre, ne favorise pas un parti politique. C'est une exigence absolue pour la police nationale qui ne doit s'arranger qu'aux côtés du peuple, la nation et l'État. Nous terminons la revue de presse avec l'éditorial du journal Business Indonesia, le 16 juin, qui a écrit sur « Garder le bloc Masela ». L'arrivée du président et chef de la direction de l'Ampex Corporation, Toshiaki Kitamura, et le président-directeur de l'Ampex d'Indonésie, Shunichiro Sugaya, au Palais Merdeka, pour rencontrer le président Joko Widodo lundi le 13 juin, porte beaucoup de sens. Kitamura vient en Indonésie, pas long après la visite officielle au Japon, dans le cadre du G7 à la fin du mois dernier. La visite est une affirmation au gouvernement que la poursuite de la construction du champ de projet INPEX pérenne, Masela, au large de la côte Molucca, après la décision du président concernant le gaz naturel liquéfié onshore. INPEX estime qu'il y a des choses qui devraient économiquement et techniquement ajustées pour répondre aux critères d'admissibilité dans l'investissement. Depuis la découverte en 2000, le développement du champ de gaz a continué à être retardé en raison de l'absence de certitude du régime de traitement à utiliser. Initialement, INPEX, que l'opérateur prépare l'étude pour la construction de raffineries en mer pour traiter le gaz du bloc ou flottant naturel liquéfié au gaz de traitement Constellation, faire des changements. Par conséquent, à la fois l'unité spéciale du pétrole et du gaz et le ministère de l'énergie et des ressources minérales a été dû déplacer rapidement pour négocier afin que le projet Masela, dans les limbes depuis 16 ans, a trouvé le chemin de la lumière. Cher ami, c'était la revue de presse.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Auditeurs, nous allons vous raconter dans notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie de l'édition de 18 juin. On va commencer le 18 juin 1935, traité naval germano-britannique. Le 18 juin 1935 est signé un traité naval germano-britannique entre Joachim von Ribbentrop et les Britanniques. Le diplomate allemand, par un coup de bluff, permit à la flotte allemande d'être indétrant 100% du tonnage de la Royal Navy, un navire de surface. Cet accord est devenu avec le Troisième Reich sans consultation extérieure. Déroge aux conventions du traité de Versailles et de la conférence de Stresa tenue quelques semaines auparavant. On continue le 18 juin 1953, proclamation de la République d'Égypte. À la suite d'un coup d'état de l'organisation clandestine des Sauviciers Libres qui a renversé le roi Farouk un an plus tôt, la République est proclamée en Égypte. Le général Mohamed Naguib occupe la fonction de président de la République. Mais en désaccord avec le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser, il est démis en novembre 1954. Nasser reçoit alors le plein pouvoir. Il mettra fin à la présence britannique en Égypte, qui a commencé en 1882 par le traité d'évacuation de la zone du canal de Suez en juin 1956. Entamé le 18 juin 1979, signature des accords SALT II. Après les accords de Vladivostok en 1974 et SALT I en 1972, les négociations sur la limitation des moyens armés entre les deux protagonistes de la guerre froide se poursuivent. Ainsi, avec SALT II, Américains et Soviétiques définissent pour la première fois un nombre maximum précis de bombardiers et de la lance-missile tolérée, en impliquant la destruction du surnombre. Toutefois, le traité n'entrera jamais en vigueur. Chers auditeurs, c'est notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix d'Indonésie à Jakarta. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la mise au point et en titre, l'Indonésie accentue l'engagement d'interdire l'essai de l'arme nucléaire. L'Indonésie a affirmé l'importance de la mise en valide du traité de l'interdiction compréhensive de l'essai nucléaire, soit Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, en tant que seul instrument de la loi internationale qui interdit l'essai de l'arme nucléaire, qui a le système de la vérification universelle et non discriminatif. Comme affirmé le leader de la délégation d'Indonésie, Rahmat Budiman, lors de la séance ministérielle pour commémorer 20 ans du traité de l'interdiction compréhensive de l'essai nucléaire CTBT et en lieu au siège des Nations Unies à Vienne, en Autriche, dès le 13 juin dernier. Selon l'agence de presse Antara, cette séance ministérielle était organisée en même temps avec la 46e séance de la commission préparatoire de CTBC. Le fonctionnaire de l'ambassade d'Indonésie à Vienne, Dodi Kusumonegoro, a déclaré jeudi « L'Indonésie encourage les 8 pays sous annexe 2 du traité de l'interdiction compréhensive de l'essai nucléaire d'immédiatement signer et ratifier le traité. Ils sont les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Iran, l'Israël, la Corée du Nord, l'Égypte et le Pakistan. Le traité de l'interdiction compréhensive de l'essai nucléaire est la réalisation de l'engagement de la communauté internationale à interdire l'essai de l'arme nucléaire étant signé dès 1996. Mais 20 ans après la signature, ce traité n'est pas encore valide car les 8 pays signataires ne le ratifient pas. Ils sont ceux qui ont la force nucléaire ou ont le réacteur de la recherche nucléaire. L'Indonésie a ratifié ce traité en 2012. Rahmat Budiman a affirmé, bien que la mise en valide du traité soit retardée il y a 20 ans, l'Indonésie est optimiste que ce traité sera mis en valide. Dans ce cas, la communauté internationale doit continuer d'encourager les pays signataires de le ratifier immédiatement. Selon la délégation d'Indonésie, la situation de la sécurité internationale peut changer à tout moment et la menace de l'arme nucléaire existe toujours jusqu'à présent. Donc, la mise en balai du traité de l'interdiction compréhensive de l'essai nucléaire comme une partie des efforts internationaux dans le désarmement nucléaire doit devenir la priorité. L'Indonésie a aussi pris le rôle actif pour promouvoir la signature et la ratification du traité de l'interdiction compréhensif de l'essai nucléaire, entre autres quand l'Indonésie devenait coprésident dans le processus de l'article 14 ensemble avec la Hongrie du 2013 au 2015. L'article 14 du traité est celui spécial pour promouvoir la mise en valide et l'universalisation du traité. La décision d'Indonésie à ratifier ce traité est la manifestation concrète de l'engagement d'Indonésie vis-à-vis le désarmement et non-prolifération de l'arme nucléaire. L'Indonésie encourage les autres pays d'immédiatement prendre la décision similaire. Chers amis, c'était la mise au point.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Au mois Ramadan maintenant, nous vous introduisons la tradition d'éveiller les gens pour Sahur. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésia, la Voix d'Indonésie. Actuellement, dans le monde, les musulmans jeûnent pendant le mois Ramadan. Il y a plusieurs façons dans la communauté d'éveiller les gens pour faire sahur. Sahur est l'activité de manger menée par les musulmans à l'aube, avant d'effectuer le jeûne du Ramadan. La tradition d'éveiller les citoyens pour faire sahur pendant le mois Ramadan est une pratique courante dans de nombreuses régions de l'Indonésie. L'un est à Riau, précisément dans l'île Palas, district Tembilahan Hulu, Régence Indragiri Hilir, Riau. La tradition de Riau, qui est maintenue à Riau, est intéressante. Éveiller la communauté pour faire sahur avec une procession des mariés sahur. Les mariés sahur est un événement pour parader les mariés. Dans le parade des mariés sahur, qui est devenu la mariée, tous étaient de sexe masculin. L'un d'eux sera mis en place comme une épouse. La mariée et le marié étaient tous les hommes ayant le maquillage comme une vraie mariée. Ici, il y a trois paires de mariés. Après être maquillés et vêtus d'une robe de mariage, les mariés seront défilés autour du village en utilisant un wagon. Alors que paradaient les mariés sahur, en utilisant des haut-parleurs, la musique et l'éclairage, ils chantent aussi des chansons islamiques. Le parade des mariés sahur va réveiller les gens du 1h30 à 5h ou jusqu'à ce que le sahur arrive. Les résidents ont été réveillés par cette foule, voire encore contribuer à animer la procession autour de cela. Les mariés sahur a été lancé il y a des décennies. L'événement a eu lieu presque tous les soirs pendant le Ramadan. Mais pour ne pas interférer les activités des citoyens au jour de travail, maintenant, la procession des mariés sahur est seulement faite le samedi et le dimanche soir. L'activité de parader les mariés sahur qui a lieu chaque week-end est une activité positive pour les jeunes dans la région pour remplir le temps pendant le Ramadan. Au milieu du Ramadan, habituellement, les mariés sahurs seraient également contestés avec de diverses évaluations, telles que le maquillage, les costumes et la compacité du couple de mariés. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain à la même heure et même fréquence avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Bonsoir à tous. Nous nous rencontrons de nouveau dans la rubrique de l'Indonésie en couleur. Et ce soir, nous vous présentons l'information sur le café d'Indonésie, créé le record au goût d'Amsterdam. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Le 6 juin dernier, la promotion culinaire annuelle ayant pour thème « Goût d'Amsterdam » ayant lieu à Amsterpark, Amsterdam, aux Pays-Bas. Dans cet événement, l'Indonésie a réussi de créer le record de goûter du café original indonésien qui a atteint 5314 personnes. Dans « Goût d'Amsterdam 2016 », l'ambassade d'Indonésie à la Haye participe avec le thème « La maison du café d'Indonésie » pour encourager la promotion du café indonésien. Cette année, l'ambassade d'Indonésie à la Haye a présenté la maison du café qui a été ouverte par l'ambassadeur Igusti Agung Wesake Puje, assisté par un certain nombre d'hommes d'affaires qui sont intéressés d'importer du café d'Indonésie, les journalistes, les agences de voyage et d'autres invités. On a choisi du café comme thème cette année parce que le café est une partie de l'histoire. Des commerçants hollandais ont apporté des graines de café en Indonésie. Le café est l'une des exportations de produits de base de l'Indonésie. L'Indonésie est le quatrième plus grand producteur de café dans le monde. En 2015, les produits de café indonésiens ont enregistré 550 000 tonnes. Pendant 4 jours, la maison du café d'Indonésie était remplie de visiteurs. Jusqu'à la fin de l'activité, a enregistré 7001 personnes qui visitaient et goûtaient du café et une variété de plats indonésiens. Du total nombre de visiteurs, 5314 visiteurs ont goûté du café gratuitement distribué. Dans l'activité Goût d'Amsterdam, l'ambassade d'Indonésie à la Haye s'est coopérée avec Tanah Merah Café Jakarta, offrant le café Aceh Gayo et Malabar Natural. Goût d'Amsterdam est un festival culinaire annuel qui a lieu à Amstelpark, Amsterdam. Cet espace ouvert est centre de destinations touristiques étrangères, des groupes urbains, y compris la région la plus peuplée aux Pays-Bas. Ce festival culinaire qui a été suivi par les gens d'affaires alimentaires, restaurants, distributeurs d'équipements, experts culinaires, soit chefs ou observateurs, les médias de premier plan aux Pays-Bas et les amateurs culinaires de différents pays visaient à introduire le menu culinaire qui qui est unique à la nouvelle création, technique de transformation des aliments, ainsi que la présentation d'un menu créatif. L'événement a été en mesure d'attirer plus de 10 000 visiteurs chaque jour, ce fait qu'une fois par an, pendant 4 jours d'affilée. Chaque visiteur devrait dépenser 50 euros pour profiter de la nourriture et des boissons à l'événement. Cette année est la troisième fois que l'ambassade indonésienne à La Haye participe à l'événement. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. À demain! Rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers amis, bonsoir. Voici le magazine de Planginada ou magazine musical de la voix de l'Indonésie. Édition de samedi avec moi, Yubi Suryanto. Ce magazine se présente des musiques indonésiennes telles que modernes, traditionnelles, dansantes ainsi que mix. Pour cette édition, on va présenter un chanteur jazz qui s'appelle Tulus. Bon, pour mieux connaître Tulus, allez d'abord écouter la chanson Jangan Cintai Aku Apa Adanya, chantée par Tulus.
Tak sulit mendapatkanmu, karena sejak lama kau pun mengincarku. Tak perlu lama-lama, tak perlu banyak tenaga, ini terasa mudah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu. Biar kita jalan ke depan, yeah. Kau terima semua kurangku, kau tak pernah marah bila ku salah. Kau selalu memuji apapun hasil tanganku yang tidak jarang payah. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan. Jangan cintai aku.
Chejemis, Jangan Cintai Aku Apa Adanya est d'origine de son deuxième album intitulé Elephant, publié en 2014. Le vrai nom de Toulouse est Mohamed Toulouse Rushdie. Il aime chanter depuis son enfance. Il est né à Bukit Tinggi, en province de Sumatra d'Ouest. Mais maintenant, il reste à Bandung, la province de Java de l'Ouest. On connaît Toulouse quand il a chanté souvent aux communautés de jazz et au campus à Bandung quand il était étudiant. Il a rejoint le groupe de musique Sikwe. En 2011, Toulouse a lancé son premier album sous réalisateur Harry Rinaldi, publié par sa propre maison de disques, Toulouse Records. Dans cet album, son frère participe aussi comme producteur exécutif. Les chansons de Toulouse telles que Sewindu, Teman Hidup, Kisah Sebentar, Tuan Nona Kesepian et Jatuh Cinta sont très populaires à la charte musicale aux radios en Indonésie. Chers amis, afin d'écouter l'histoire de Karine de Toulouse, allez encore écouter sa chanson intitulée Teman Hidup.
Dia indah peretas gundah, dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk pemanja rasa, dia yang selalu ada untukku. Di dekatnya aku lebih tenang, bersamanya jalan lebih terang. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu. Kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu. Kau milikku, ku milikmu. Satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Bila di depan nanti banyak cobaan untuk kisah cinta kita, jangan cepat menyerah. Kau punya aku, ku punya kamu, selamanya akan begitu. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia, kau milikku, milikmu. Kita satukan tuju, bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu.
Kau jiwa yang selalu aku puja.
La chanson Teman Hidup, publiée depuis 2012, elle est enveloppée avec le rythme de la musique de jazz. Cette chanson est sur l'amour et la fidélité. L'amour et la fidélité dans un lien conjugal. Décrivez mari, fidèle à son amour de la femme et la dévotion à la femme du mari. À la fin de la chanson, il y a une scène où le mari a chanté le dernier fragment des paroles « Toi est l'âme que je toujours adore », regardant droit dans les yeux de son partenaire. On peut voir que la voix de Toulouse tient un rôle important dans son succès. D'autre côté, l'arrangement des chansons est si bon, toutes les chansons ont été créées par Toulouse lui-même. Bon, chers amis, dans Quatre coins du monde, avant de terminer le magazine de musique avec le chant de Toulouse, écoutez donc deux dernières chansons de Toulouse en détoulé, Éléphant et Chaussures. Merci de votre attention et au revoir.
Lupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang tak tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara. Kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun. Kecilmu bicara, kan aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Akan setia menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu seribu tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Sang sepatu selalu bersama, tak bisa bersatu kita. Mati bagai tak berjiwa, bergerak karena kaki manusia. Aku sang sepatu kanan, kamu sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Ku tak masalah bila terkena jam, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Terasa langka bila kita berdua, terasa sedih bila kita dirak berbeda. Di dekatmu kotak bagai nirwana, tapi saling sentuh pun kita tak berdaya. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. Bila terkena hujan, tapi aku takut kamu kedinginan. Kita sangat ingin bersama,
kuasamu. aku yang dulu namanya terus jadi sisipan tiap leluconmu. Kuasamu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie. Sur les fréquences ondes courtes, 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écoutez l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id. Ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.